Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ces dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie.
Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local, hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est d'un personnage de roman que Franck Ferrand a choisi de nous parler aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Vous savez, il y a des personnages de fiction qui sont tellement illustres qu'ils deviennent, au même titre que certaines personnes réelles, des sujets d'histoire. Eh bien, c'est le cas, me semble-t-il, d'Edmond Dantès, alias le comte de Monte-Cristo, cet homme victime d'une machination et qui revient, fortune faite, pour se venger et punir sans pitié ceux qui lui avaient fait du mal. Ce personnage, inventé par Alexandre Dumas en 1845-6, s'est imposé comme le modèle du vengeur impitoyable. Des suites sans nombre ont été données à ses aventures par toutes sortes d'auteurs. Aux États-Unis en particulier, les ouvrages dérivés tels que La femme de Monte-Cristo, Le fils de Monte-Cristo, etc., avait fini par constituer à la fin du 19e siècle un sous-genre romanesque à part entière.
Ce que vous nous dites aujourd'hui, Franck, c'est que pour créer son personnage, Alexandre Dumas s'est inspiré d'un cas réel.
Eh bien, exactement. Cette histoire hallucinante est tirée d'un fait divers dont les annales policières ont conservé la mémoire. Le véritable Edmond Dantès s'appelait en réalité François Picot. Mercedes s'appelait en fait Marguerite, Danglars, Fernand et Villefort s'appelaient respectivement Loupian, Chaubard et Solari. Cette histoire vraie, je vais vous la raconter maintenant.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La trace de cette grande affaire ne figure plus dans les archives de la préfecture de police pour une raison toute simple, c'est que ces archives ont brûlé en 1871 lors des incendies de la commune. Mais cette trace, néanmoins, elle existe dans un ouvrage bien connu des amateurs, publié en 1838 sous le nom de Jacques Peuchet, ancien archiviste de la police, et un ouvrage qui s'intitule « Mémoires tirées des archives de la police de Paris depuis Louis XIV jusqu'à nos jours ». À l'époque, la police, au sens moderne du terme, est encore une invention assez récente, une invention qui passionne le public bourgeois du temps de Louis-Philippe. L'intérêt particulier de l'ouvrage de Peuchet, c'est qu'il puise, ou qu'il prétend puiser, à des sources inaccessibles. Le chapitre qui nous intéresse a pour titre « Le diamant de la vengeance », sous-titré « Histoire de François Picot d'après 30 rapports, pièces officielles, procès-verbaux, interrogatoires ». Or, vous allez voir que si ce que rapporte l'archiviste Peuchet est vrai, alors la réalité est au moins aussi stupéfiante que la fiction. L'affaire commence en 1807, oh non pas à Marseille comme chez Dumas, mais à Paris, au cœur même du quartier des Halles. Et pas autour d'une grande affaire politique comme dans le roman, non. Simplement à propos d'une banale liaison amoureuse. François Picot, à cette époque, est un jeune et fringant cordonnier en chambre, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore pignon sur rue, qu'il travaille chez lui à son domicile dans la rue des Lombards. Or, il file le parfait amour avec la très jolie, la fraîche, la ravissante petite Marguerite Figoroux. Tout le monde dans le quartier se réjouit de leur bonheur, tout le monde sauf le tenancier du cabaret de la place Sainte-Opportune, un certain Mathieu Loupian, pourtant un compatriote de Picot, il est originaire comme lui de Nîmes. Oui, seulement Loupian, qui est veuf avec deux enfants et qui se sent à l'étroit dans son troquet, Loupian a lui-même des visées sur Marguerite, ainsi d'ailleurs que sur la belle dot que la jeune fille apporte avec elle et qui lui permettrait d'acquérir un vrai café sur les boulevards. Un beau matin, le jeune cordonnier se présente chez le tavernier, tout sourire, mieux habillé qu'à l'ordinaire. Au milieu des habitués goguenards, il vient annoncer son mariage pour le mardi suivant avec l'adorable Marguerite. Cette fois, Loupian a toutes les peines du monde à dissimuler son amertume. Sans se méfier, avec la candeur d'un jeune homme prêt à se marier, François lui commande un repas de noces pour 12 personnes. Mais à peine le jeune homme a-t-il tourné le dos que Loupian lâche à la bande des habitués qui viennent d'assister à la scène « Cette noce à picot, là, je parie que je retarde la fête. » Et l'amertume lui donnant peut-être un peu d'audace, « Eh oui, le commissaire ne va pas tarder, c'est son heure. Et si je lui disais, juste comme ça pour voir, que le picot, c'est un agent des Anglais ?» L'un des témoins affirmera par la suite qu'il a tout fait pour dissuader Loupian de faire cette mauvaise blague. « Oh quoi, ce n'est qu'une farce. Si on peut même plus en rire, en plein carnaval. » Farce si l'on veut, en attendant, le fait est que la déposition est bel et bien enregistrée, avec la complicité rigolarde de plusieurs clients du Troquet, dont en particulier les dénommés Chaubard et Solari. Suspicion d'intelligence avec les Anglais, a priori l'accusation paraît légère, seulement je vous rappelle que nous sommes en 1807, on est sous Napoléon, dans un empire encore mal assuré, le ministère de la police générale qui a été rétabli depuis 2 ans et demi au bénéfice du terrible Fouché, ce ministère se montre efficace, le conflit avec l'Angleterre bat son plein et l'on accuse le gouvernement de Londres d'utiliser justement des agents royalistes disséminés dans la population pour entretenir la sédition contre l'empereur, notamment en Vendée, bref, ce qui pourrait n'être qu'une mauvaise plaisanterie va tourner très vite à l'erreur judiciaire, ou plutôt à l'erreur policière, puisqu'il n'y a même pas de procès. Le pauvre François est tout simplement arrêté, sans explication, le jour de ses noces, et transféré dans le plus grand secret à la prison de Fenestrel, près de la célèbre forteresse de Pignerolles. C'est un secret d'État, il y a une chape de plomb qui s'abat là-dessus. Les proches de François, à commencer par la petite Marguerite, tout éplorée, auront beau se démener, rien n'y fait. On n'entendra plus parler de François Picot, du moins jusqu'à la libération des prisonniers politiques de l'Empire, c'est-à-dire au retour de Louis XVIII en 1814. 7 ans plus tard, c'est donc un homme cassé, vieilli prématurément, ses cheveux sont devenus blancs, voûté, malingre, qui sort de prison. Oh, il est absolument méconnaissable, même pour ses proches. En même temps, et paradoxalement, c'est un homme riche, car durant ses longues années de captivité, il s'est occupé comme un fils d'un ecclésiastique milanais très malade, interné lui aussi par Fouché pour des raisons politiques et abandonné par sa famille trop heureuse de profiter pendant ce temps-là de sa fortune, ce qui fait que quand le pauvre homme a senti la mort venir, il a établi un testament en faveur de François, de son compagnon d'infortune. Il lui a même laissé des instructions pour la découverte d'un coffre de diamants et d'un autre rempli de pièces d'or, des coffres cachés tous deux à Milan. Naturellement, c'est là que, sitôt libéré, s'est précipité François Picot, ou plutôt Joseph Luchère, puisque maintenant c'est comme ça qu'il va se faire appeler. Après quoi, Luchère prend la route de Paris, il va mener sa petite enquête dans le quartier Sainte-Opportune, alors il n'a pas de mal à apprendre que Loupian s'est acheté un beau café, boulevard des Italiens, grâce à la dot d'une jeune fille qui a fini par l'épouser après avoir perdu la trace de son fiancé disparu. Une commère croit pouvoir ajouter que Loupian n'est pas pour rien dans ce qui est arrivé au dit fiancé. Elle connaissait même un certain Antoine Alut, un Nîmois, qui lui avait expliqué la machination dont Loupian s'était rendu coupable. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce Nîmois ? Ah ben, à Nîmes, justement, il s'est retiré là-bas. François Picot, alias Joseph Luchère, en a assez entendu. Quelques jours plus tard, on le retrouve justement à Nîmes, descendant d'une chaise de poste. Il a l'air tout à fait impassible.
Sur Europe 1, cet extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz.
François Picot, qui se fait donc appeler Joseph Luchère, est habillé en ecclésiastique. Il affecte l'accent calabrais, il se fait appeler l'abbé Baldini, là maintenant. Il ne lui faut pas longtemps pour retrouver le dénommé Alut, ni moyennant récompense, en l'occurrence un très gros diamant, pour lui tirer les vers du nez. Le brave homme ne l'a pas reconnu du tout. Il lui explique que si Picot en 1807 a été arrêté, c'est parce qu'il avait été accusé d'espionnage par un certain Loupian, avec la complicité de ses amis Solari et Chaubard. Baldini, Luchère, Picot, comme vous voudrez, soupir. Voilà près de 8 ans qu'il attendait de connaître la vérité. Et bien maintenant, il la connaît, cette vérité. Et on peut dire que maintenant qu'il la connaît, il n'est pas certain de ne pas être déçu. Alors comme ça, tant d'années de souffrance, une jeunesse perdue, toute une vie gâchée pour une simple plaisanterie de mauvais goût qui aurait mal tourné, une plaisanterie dictée par la plus banale, par la plus médiocre des jalousies. Sa vengeance n'aura pas de limite. Arrive là-dessus les 100 jours, c'est-à-dire vous savez que Napoléon va reprendre le pouvoir pendant 3 mois. Et ce n'est qu'après la seconde restauration que cet homme, vieux avant l'âge, les cheveux blancs, les chines courbées, c'est à ce moment-là que cet homme se présente au café Loupian, boulevard des Italiens, pour proposer à la patronne, oh comme elle a changé la pauvre Marguerite et comme elle a l'air éteint, pour lui proposer ses services comme chef de rang. Il dit s'appeler Prosper, il a l'air consciencieux, il est engagé, il devient même un employé modèle, c'est tout juste s'il paraît tendu quand il entend le patron, monsieur Loupian, éclater de son gros rire de provençal, ou quand il doit servir leur boc à 2 habitués de la terrasse, messieurs Chaubard et Solari. Ce Chaubard, en fait, sera la première victime de notre vengeur. On retrouvera son corps un soir sur le pont des Arts, un poignard fiché dans le cœur. Et sur le poignard, il y a une inscription bien faite pour inquiéter la police. C'est le genre d'inscription qu'on n'aime pas trouver quand on est enquêteur. Il y a écrit « numéro 1 ». Cette fois, les représailles ont commencé, mais le besoin de vengeance est loin d'être assouvi. Il va falloir encore à ce Monte Cristo pour de vrai, bien du sang et bien des larmes. François Picot se fait passer pour un garçon de café du nom de Prosper, je vous l'ai dit. Il se trouve que la fierté de l'infâme Mathieu Loupian, ce sont les 2 enfants qu'il a eus, une fille et un garçon, qu'elle avait eu d'un premier lit. L'aînée Thérèse a 19 ans, c'est une merveilleuse jeune fille à qui tous les espoirs sont permis. Et un jour, dans le café de ses parents, elle fait la connaissance d'un jeune homme très bien habillé qui paraît mener grand train. Il se fait appeler le prince de Corlano. Oh, la jeune fille est éblouie. Elle se laisse séduire et, comme on disait alors, elle se laisse engrosser. Loupian serait au désespoir si Corlano, semble-t-il parfait gentleman, ne venait lui demander la main de sa fille. Du coup, il est tout content, Loupian. Sa fille à lui, l'ancien tavernier de la place Sainte-Opportune, devenue princesse. Oui, oui, sauf que le jour des noces, un billet est adressé à chacun des 150 invités. Corlano y déclare être un repris de justice et il annonce sa fuite définitive en Espagne. Eh bien, voilà toute la famille de Loupian déshonorée. Vous allez me dire, il lui reste son fils, un jeune homme agréable de 17 ans. Sauf que le pauvre bougre se laisse comme par hasard entraîner et saouler par une bande de marlous et que la police le retrouve seul sur les lieux d'un cambriolage, les poches pleines de bijoux volés. Et voilà comment un gamin bien sous tout rapport se retrouve condamné à 20 ans de travaux forcés. Ah, cette fois, pour Loupian, la coupe est pleine. Quand il retrouve à quelque temps de là son grand café en cendres, incendié par des inconnus, quand il apprend que le propriétaire à qui il louait les murs intente une action récursoire, Loupian se dit que décidément le sort s'acharne trop sur sa pauvre personne. Pourtant, il ne se doute de rien. Non seulement il ne se méfie pas de ce Prosper depuis l'arrivée duquel tout va si mal, mais il va aller jusqu'à lui vendre les charmes de sa Thérèse déjà déshonorée. Même l'empoisonnement dans des conditions mystérieuses de son ami Solari, sur le cercueil duquel on retrouvera piqué l'inscription « numéro 2 », même cela n'éveille pas ses soupçons. Et puis, un soir, après la mort de sa seconde femme, Marguerite, alors que devenu presque clochard, Loupian erre parmi les ombres du jardin des Tuileries, autant dire sous les fenêtres du roi Louis XVIII, il entend une voix, la voix de Prosper, qui lui lance « Loupian, tu te rappelles 1807 ?» Un frisson le fait tressaillir. C'est le cas chaque fois qu'il repense à cette sale affaire. Mais, se dit Loupian, comment ce pauvre Prosper pourrait-il bien être au courant de cette histoire ? Loupian, reconnais-moi ! « Je suis Picot, tu seras mon numéro 3 !» Mon Dieu, mais ce Prosper, c'était donc le corbeau de la place Sainte-Opportune n'aura pas le loisir d'aller au bout de sa pensée. Un coup de poignard vient abréger ses stupeurs.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et de Troyes, Picot a encore frappé, n'est-ce pas Franck ?
Et oui Caroline, et au moment même où François Picot vient d'assassiner son persécuteur, il se sent assailli par derrière, molesté, bientôt ligoté et bâillonné. C'est Alute qui vient de le mettre hors d'état de nuire. Antoine Alute, vous savez, qui a beaucoup à lui reprocher. À Nîmes, il s'est laissé berner par le joaillier qui lui avait acheté son gros diamant. Il a fini par le tuer accidentellement. Il a dû prendre la fuite. Il a été arrêté en Italie, d'où il s'est enfui. Et ensuite, il a mené sa propre enquête et il n'a pas tardé à comprendre qui était en fait le prétendu abbé Baldini qui lui avait arraché son secret. Il a finalement retrouvé sa trace, il a appris ce qu'il avait fait subir à Loupian et aux siens. Malheureusement, il vient d'arriver, là on peut dire 2 minutes trop tard pour empêcher le vengeur de tuer sa victime. Seulement, Antoine Alute sait maintenant que Picot, ce sacré cordonnier, est devenu riche, très riche. Alors, il va le séquestrer et tâcher en l'affamant de lui extorquer de l'argent. Picot préférera tomber fou plutôt que de lui céder un seul louis d'or. Et à la fin, excédé, Antoine Alute va finir par l'achever, ce qui fait un crime de plus dans cette histoire. Il s'enfuit, Alute, il franchit la Manche, il tâche de se faire oublier en Angleterre. De toute façon, la cave où il a séquestré Picot avant de le tuer est bien cachée, on ne retrouvera sûrement jamais le corps. Antoine Alute a pour lui un atout, il est le seul, l'unique survivant de toute cette terrible histoire. Et puis les années passent jusqu'à l'automne 1828, où, toujours réfugié dans un bas quartier de Londres, Antoine Alute, très malade, sent venir la fin. Alors, il fait quérir un prêtre français, l'abbé Madeleine, et il lui dicte avant de mourir toute cette effroyable histoire. Eh bien, c'est ce texte pris sous la dictée que l'ecclésiastique va mettre sous pli à l'adresse de monsieur le préfet de police de Paris. Et c'est ce pli précisément signé Jean Madeleine, décédé à Londres en 1830, que l'archiviste Peuchet est censé avoir extrait des cartons plus ou moins poussiéreux de la préfecture de police. Le problème, c'est que Peuchet lui-même est mort en 1830 et que son ouvrage, en 1838, a été publié par le grand éditeur Levavasseur à titre posthume. Un avant-propos nous apprend d'ailleurs que l'édition en question a été établie d'après des notes manuscrites de l'archiviste. Mais comment savoir si un teinturier, comme on disait à l'époque, aujourd'hui on dirait un rewriter, comment savoir si quelqu'un n'est pas venu pour enjoliver les récits de Peuchet, voire même pour ajouter des histoires à celles qui figuraient dans les notes? D'ailleurs, qu'est-ce qui permet d'affirmer que le sieur Peuchet lui-même était rigoureusement crédible? Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de questions. Et même en réfléchissant, c'est pire que cela. Bien sûr, l'ouvrage de Peuchet affirme que les restes d'un homme tenu par une ceinture de fer auraient bien été retrouvés dans une cave de Saint-Roch. Mais après tout, l'ensemble de ce récit repose sur le témoignage d'un seul témoin, Alute, lui-même relayé par un seul confident, le père Madeleine. Vous avouerez que ça offre assez peu de garanties, surtout lorsqu'on sait que l'ensemble des dossiers de police éventuellement concernés ont donc brûlé en 1871. Disons-le clairement, l'affaire Picot est pour le moins sujette à caution. Ce qui est certain, et c'est ce que nous allons voir à présent, c'est que cette affaire, elle a inspiré à Alexandre Dumas un de ses plus grands romans, peut-être le plus grand.
Et la symphonie fantastique à l'honneur aujourd'hui dans Au cœur de l'histoire, c'était un bal.
Et notre invité à l'honneur, c'est Nicolas Carreau, que connaissent bien les auditeurs d'Europe 1, notamment les auditeurs de cette excellente émission de Laurent Guimier le soir, qui s'appelle Des clics et des claques. Nicolas Carreau qui a beaucoup raconté à nos auditeurs des histoires extraordinaires et mystérieuses et qui est membre de la Société des Amis d'Alexandre Dumas. Je ne le croise jamais dans les couloirs d'Europe 1 sans que nous ayons quelque échange sur Alexandre Dumas. Bonjour Nicolas.
Bonjour Franck.
Merci d'être avec nous. C'est quand même pour Dumas, une matière fabuleuse qui s'est présentée à son imagination. On est là donc dans les années 1844.
Tout est une matière fabuleuse pour Dumas, vous le savez. Dumas disait « L'histoire, ce n'est jamais qu'un clou auquel j'accroche mes romans. » Tout simplement, ça vaut pour la grande comme pour la petite histoire. Là, on est plutôt dans la petite histoire, dans la chronique judiciaire.
On lui reprochait souvent de violenter un peu l'histoire, de tirer un peu la couverture, et il répondait...
Et on lui reprochait de violer l'histoire, et il disait, il est permis de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants.
Et c'est ce qu'il fait, en l'occurrence. Alors, il ne travaille pas tout seul hein, sur le dossier, parce qu'on appelle ça le dossier à lutte à l'époque. On n'appelle pas ça l'affaire François Picot, on appelle ça le dossier à lutte. C'est un peu mystérieux, parce que finalement... Mais c'est vrai qu'après tout, c'est de la lutte que tout vient, donc de ce Nîmois un peu mystérieux.
À l'époque, Dumas a signé un contrat pour ses impressions de voyage à Paris. Et donc, il tombe sur cette histoire et il décide d'appliquer l'histoire à ses impressions de voyage à Paris. Donc, de mettre toutes les scènes dans Paris. Et puis, c'est Auguste Maquet, qu'on connaît bien, qui est son célèbre maigre.
On connaît maintenant, parce que pendant longtemps, il était un peu passé à la trappe, Auguste Maquet. Mais en fait, on a dit le nègre de Dumas, avec un jeu de mots sur le fait que Dumas était lui-même métis, évidemment. En l'occurrence, il était carrément son collaborateur, disons-le. Ils ont beaucoup travaillé ensemble.
Hein. Dumas le comparait au collaborateur du Titien ou de Léonard
de
Vinci.
Oui. C'est un atelier, Dumas.
Exactement. Et donc, c'est Maquet qui décide de faire partir l'histoire de Marseille et de monter le comte de Monte Cristo en le faisant partir de Marseille, puis à Paris, puis ensuite on s'en va en Italie. Enfin, c'est tout un voyage et la fresque que ça a donné.
Je trouve que Monte Cristo, c'est plus joli que Picot comme nom. Hein.
Oui, alors le nom de Monte Cristo, Dumas n'avait pas vraiment le choix parce que c'est une promesse qu'il a faite à Plomplon, qui était le fils de Jérôme Bonaparte, le plus jeune frère de Napoléon.
Le prince Napoléon, oui.
Parce que Dumas, en 1841...
Qui est donc le cousin de l'empereur Napoléon III,
voilà,
plus tard.
Voilà, Dumas est en 1841 à Florence et il rencontre le prince Jérôme. Il se lie d'amitié, une amitié très forte qui durera longtemps d'ailleurs. Et Jérôme lui confie son fils Plomplon en lui disant « ouvre-lui un peu l'esprit ». Va lui faire visiter tel ou tel endroit. Et puis Dumas lui dit « Oui, on pourrait peut-être commencer par l'île d'Elbe, ça lui ferait un pèlerinage historique intéressant. » Donc ils vont à Livourne, Dumas et Plomplon. Ils cherchent un bateau, pas de bateau, pour aller à l'île d'Elbe. Et puis donc ils se baladent un peu sur le port et ils croisent un petit bateau, une barque en fait, baptisée le Duc de Reichstadt, qui est le titre de Napoléon de l'Aiglon. Donc coïncidence trop belle, les rameurs qui sont dans le bateau, bien sûr, accueillent
le prince Napoléon.
Ils partent donc avec Dumas, ils ont emmené leur fusil de chasse quand même, hein. C'est comme ça que ça se passe à l'époque quand on est bien né. Donc ils partent sur l'île d'Elbe, ils tirent quelques oiseaux de mer d'ailleurs, Dumas raconte ça, sur la route de l'île d'Elbe. Ils arrivent à l'île d'Elbe, et on continue peut-être tout à l'heure.
Non, allez-y.
Ils arrivent à l'île d'Elbe et puis donc ils se baladent sur l'île d'Elbe, ils s'en vont, ils s'arrêtent vite fait sur l'île de Pianosa, ils tirent quelques oiseaux là encore, ils repartent pour de bon cette fois-ci, croit-il, et puis ils croisent un caillou, un rocher. Dumas dit au rameur, mais qu'est-ce que c'est que ce rocher? Le rameur dit, oh, il y a des chèvres sauvages là-dessus, il y a rien à faire. Il dit, oh, j'irais bien quand même chasser. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Monte Cristo. Et donc il s'approche de l'île, Dumas veut descendre pour chasser, mais le rameur lui dit, attention, je vous préviens quand même, l'île est en contumace, ça veut dire que ensuite, si vous allez sur cette île, si vous revenez ensuite à Livourne, il faudra rester 5-6 jours en quarantaine,
voilà,
parce qu'on craint les maladies. Voilà, et donc Dumas, donc, bon, tant pis, on va peut-être pas tenter le coup, mais il faut quand même le tour de l'île, il trouve ça magnifique, et il fait la promesse à Plomplon d'appeler son prochain roman Monte Cristo.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Alexandre Dumas, raconté aujourd'hui par Franck Ferrand et Nicolas Carreau.
Et oui, Nicolas Carreau d'Europe 1 qui nous fait l'amitié d'être ici pour parler de son idole, disons-le. Cet Alexandre Dumas extraordinaire. Vous aviez acquis une lettre d'Alexandre Dumas d'ailleurs, Nicolas.
Absolument, un manuscrit, oui. Un petit billet plus qu'une lettre.
Alors, on est donc dans l'hiver 43-44. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque, il y a un feuilleton qui vient d'avoir un succès phénoménal. Ce sont Les Mystères de Paris d'Eugène Sue. Évidemment, l'éditeur de Dumas et la presse voudraient bien avoir le même genre de choses, sous la plume de Dumas.
On a souvent comparé Monte Cristo au Prince Rodolphe des Mystères de Paris. Simplement, Dumas est quand même plus de style et de panache que Eugène Sue, même si j'aime beaucoup Eugène Sue, mais il y a quand même plus de profondeur chez Dumas. C'est vrai que c'est la naissance surtout du roman feuilleton qui donne cette fresque immense de Monte Cristo, parce qu'il faut alimenter, et Dumas a besoin d'argent aussi, alimenter les nouveaux journaux. Et là, c'est dans le journal des débats. Ça dure 2 ans à peu près.
Ça dure 2 ans parce que ça, entre nous,
par intermittence, il y a 2 saisons.
Puis ça pourrait durer 3 mois, sauf que Dumas tire vraiment.
Il est payé à la ligne. Il est payé 1,50 à la ligne.
Ça va être l'invention du dialogue dans la littérature, d'ailleurs. Ça, c'est merci, monsieur Dumas. et alors, on
oui, mais il y a un double processus parce qu'il est payé à la ligne, il faut faire beaucoup, mais il faut surtout, surtout pas ennuyer le lecteur.
Et voilà, c'est ça.
Donc ça donne quelque chose de gigantesque, mais de passionnant quand
mais
même.
Mais il y a quand même des dialogues. Que voulez-vous? Qui? Vous? Moi? Non? Si? Et alors, à chaque fois, on va à la ligne et à chaque fois, on touche 0,50 francs, c'est ça?
Ça donne du rythme, malgré tout.
Alors, cette fresque extraordinaire, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, bien entendu, Dumas va donner au personnage de l'affaire Picot, il va leur donner un tout autre relief, et surtout, il confère à cette histoire une dimension politique. C'est-à-dire que d'une affaire de pure vengeance un peu sordide, liée à une histoire d'amour qui tourne mal, etc., une vengeance amoureuse, il fait une affaire politique qui implique, on peut dire, tous ces régimes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit sous la plume de Dumas, on met en scène Louis XVIII, les 100 jours, la chambre des pères de Louis-Philippe, les spéculations boursières de la monarchie de Juillet, la naissance d'une nouvelle classe au pouvoir. On a l'impression de tutoyer l'histoire. Et attention, pour l'époque, l'histoire récente, ne l'oublions pas.
Oui, bah c'est le principe de Dumas, on visite l'histoire comme ça. Effectivement, Dantès est enfermé...
Edmond Dantès,
qui sera Monte Cristo ensuite, est enfermé en 1815, donc après les 100 jours. Et pour résumer un peu l'histoire quand même, il est accusé d'avoir ramené une lettre de Sainte-Hélène, parce que Dantès est un marin. Et pendant une mission, il fait escale à Sainte-Hélène et on l'accuse...
C'est nettement plus romanesque, hein,
d'avoir,
déjà.
Voilà, ah, d'avoir ramené... une lettre de l'empereur pour ses alliés bonapartistes rebelles qui restent encore en France. Et pour compliquer tout ça, la personne à qui il doit remettre cette lettre est le père du procureur du roi, donc, monsieur de Villefort, qui ne veut surtout pas qu'on lui rappelle que son père est un bonapartiste chevronné. Et donc, c'est d'abord une histoire politique, c'est d'abord une histoire de positionnement et de trahison qui va avec.
Ce qui rend assez difficile à expliquer la postérité du mythe, c'est la vengeance qui a fait la force de l'histoire plus que son contexte politique, parce que je voyais ça dans une adaptation télévisée relativement récente, hein, on a eu la énième Monte Cristo, et je me disais, mais comment le public d'aujourd'hui peut-il s'y repérer entre ces bonapartistes, ces légitimistes, ce ferment de république que l'on voit poindre, comment à l'époque, au 19e siècle, on vivait au milieu de tout ça? C'était comme si aujourd'hui on vous parlait de l'UMP, du Parti Socialiste. Mais aujourd'hui, bien entendu, 150 ans plus tard, c'est plus compliqué quand même.
Bien sûr, mais il n'a même pas à s'y retrouver, en fait. Vous avez raison, Franck. C'est la vengeance et le personnage de Monte Cristo qui compte. Et pour revenir quand même sur les empreintes du mal à l'histoire, l'abbé Faria, par exemple, a existé. L'abbé Faria qui vient sauver, enfin qui creuse un tunnel pour s'évader du château d'If où Edmond Dantès est enfermé et qui se trompe de chemin en fait et qui tombe dans la cellule d'Edmond Dantès et qui lui apprend, donne de l'instruction pendant 14 ans, qui lui donne de l'instruction, qui lui révèle l'existence d'un trésor, celui des Spada, qui se trouve sur l'île de Monte Cristo. Cet abbé Faria a réellement existé à la fin du XVIIIe siècle. Il est mort, je crois, en 1818. Donc Dumas lui donne une dizaine d'années de plus de vie. C'est la générosité de Dumas. Et c'était un magnétiseur, une sorte de Cagliostro, si vous voulez, qui était très répandu à l'époque. C'est-à-dire qu'il pratiquait le somnambulisme lucide. Voilà, donc c'est un des personnages qui a existé. Et puis, vous parliez dans l'affaire Picot de ce jeune homme qui est marié à un des ennemis de Picot et qui se révèle ne pas être un prince, mais plutôt un repris de justice. Il y a exactement la même histoire qui est développée dans Monte Cristo, sauf qu'il s'appelle le Major Cavalcanti. C'est encore plus compliqué chez Dumas parce que le Major Cavalcanti, ce jeune homme, est donc le fils de Bertuccio, qui est le valet de Monte Cristo.
Ce qui permet d'ajouter 30 pages.
Voilà, mais qui est le fils adoptif de Bertuccio, parce que c'est le fils bâtard de Villefort, que Villefort avait enterré le croyant mort-né.
Je pense qu'on aurait fait cette émission il y a 50 ans, on aurait peut-être eu du mal à expliquer à nos auditeurs à quel point ça pouvait tout cela tenir le public en haleine. Aujourd'hui, c'est plus facile parce que nous avons l'équivalent exact des grands feuilletons du 19e siècle et cet équivalent, ce sont les séries télé, bien entendu. Je cite Jean Tullard, « Les méchants qui ont perdu Dantès symbolisent les trois aspects de la réussite sociale sous le règne de Louis-Philippe. Danglars, devenu banquier, incarne l'aristocratie de l'argent. Fernand, qui a reçu le titre de comte de Montserrat, représente l'aristocratie politique de la Chambre des Pairs. Enfin, Villefort, procureur du roi à Paris, celui dont vous nous parliez à l'instant, Nicolas, se confond avec le pouvoir judiciaire et administratif dont la puissance date de l'Empire. La réussite des trois hommes est incontestable, mais l'origine en est douteuse. Et oui, c'est toute l'origine de toutes ces carrières fondées sur la Révolution française et ses suites. Comme la majorité des notables Louis-Philippard, ce sont, nous dit Jean Tullard, des parvenus. Est-ce qu'il y a chez Dumas la volonté de régler un peu leur sort aux parvenus?
Bah, c'est sûr que c'est avant tout une caricature de la société Louis-Philippard. Mais sauf que la vengeance est beaucoup plus subtile que chez Picot. Il n'y a pas un simple meurtre, même si l'histoire des numéros est assez jolie dans l'histoire de Picot. Là, c'est beaucoup plus subtil parce qu'il ne les tue pas, il les mène au suicide. C'est le cas de Fernand de Morcerf.
Il les pousse à l'horreur.
Qui lui a piqué la très très belle Mercedes Herrera aux cheveux noirs de Gex. Il le pousse au suicide en dévoilant ses trahisons. Danglars, le banquier, pareil, il l'affame, il le met dans une prison, il lui dit « Maintenant, si tu veux manger, tu me donnes ta fortune entière pour chaque repas. » Il divise ça, en fait, etc. Et il les ruine et il les mène au déshonneur, ce qui, à l'époque, était l'équivalent d'un meurtre, en fait.
Il y a quand même quelque chose de pervers dans cette inspiration de Monte Cristo. Comment Dumas inventait-il ces histoires? Où allait-il puiser la phénoménale imagination qui, de nos jours encore, nous laisse pantois? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Une imagination quasi machiavélique.
Ah oui, on peut dire en tout cas...
Que cet Alexandre Dumas.
Imagination profuse.
On écoute un petit extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz maintenant. Au supplice, cet extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz.
Alors il y a chez Alexandre Dumas constamment des allers-retours entre sa propre existence et son œuvre. On ne peut pas dissocier les deux du reste. C'est ce que montrent la plupart de ses biographes et des personnes qui analysent son œuvre. C'est devenu un véritable sujet universitaire aujourd'hui. Et notamment, Dumas vivait, enfin il s'est mis à vivre très peu de temps après la publication de son feuilleton tellement célèbre, dans le château de Monte Cristo. Qu'est-ce que c'est que ce château de Monte Cristo, Nicolas Caro?
Le château de Monte Cristo, on dit château, ça tient plus du manoir.
C'est une jolie maison.
Qui se trouve à Port-Marly, voilà, pas très loin de Paris. On peut y aller en RER, on peut le visiter d'ailleurs aujourd'hui. Il y a sans arrêt des expositions. Il a été récupéré, je crois d'ailleurs, par la Société des Amis d'Alexandre Dumas. Et je crois d'ailleurs que Claude Chope n'y est pas étranger dans cette...
Claude Chope, le grand biographe d'Alexandre Dumas, celui qui a médiatisé le sauvetage de Port-Marly, enfin donc du château de Monte Cristo, c'est évidemment Alain Decaux, que nous saluons très chaleureusement. Alain Decaux a joué un rôle extraordinaire et il a notamment convaincu le roi du Maroc de l'époque, Hassan II, de s'intéresser à cette maison. Hassan II avait une bibliothèque complète d'Alexandre Dumas, il lisait Alexandre Dumas constamment et donc il a financé en grande partie ces restaurations. Nous parlons du château de Monte Cristo, d'Alain Decaux. Je cite évidemment le dictionnaire amoureux d'Alexandre Dumas chez Plon. C'est un livre merveilleux. Et dans ce dictionnaire amoureux, Alain Decaux rend hommage à Claude Chope. Il nous dit que si aujourd'hui Alexandre Dumas est pris au sérieux par tous les universitaires, c'est à Claude Chope qu'il le doit. Celui-ci, écrit Alain Decaux, ne cesse de donner des éditions critiques, mots à comprendre dans l'absolu du terme. Il déniche nombre d'inédits, il publie des textes inconnus, il balaie les inexactitudes, va jusqu'à attribuer une consistance aux personnages crus imaginés des romans. Il les dote même d'un état civil. L'énorme dictionnaire qu'il propose en 2010 à ses admirateurs renferme l'essentiel de sa science. De Claude Chope, on ne saurait omettre un véritable tour de force. À la fin du deuxième tome de mes mémoires dans l'édition bouquin figure un quid de Dumas, 107 pages serrées qui répond à tout, nous dit Alain Decaux. Je dis bien tout ce que notre curiosité peut porter à cette vie et à cette œuvre sans égale. Merci Claude Chope. Eh bien nous allons pouvoir le lui dire de vive voix puisqu'il est au téléphone. Bonjour Claude Chope.
Bonjour.
Merci d'être des nôtres. Alain Decaux vous dit un grand merci public. Vous êtes la mémoire vivante de cette œuvre-là. Vous y avez quasiment passé votre vie, disons-le.
Oui, enfin disons, c'est une vie de plaisir dans ces cas-là. Oui.
Une vie de plaisir et aussi peut-être, on peut sans doute parler d'une forme de parcours initiatique, car ce qu'on ne souligne pas suffisamment, c'est que Alexandre Dumas, à travers cette énorme œuvre qui est la sienne, a traité tous les aspects de la vie humaine.
Oui, enfin, c'est une volonté très romantique de que rien ne lui échappe, en fait. C'était, il y a une espèce de gourmandise de savoir chez lui qui fait qu'il s'intéresse à tout avec une sorte d'énergie un peu effrayante, même. On a beaucoup de mal à le suivre, vous savez. Travailler sur Dumas, c'est souvent perdre haleine.
Alors, nous venons de nous amuser à voir quels sont les rapports entre la réalité et la fiction dans le conte de Monte Cristo.
Oui.
En l'occurrence, ce qui est assez étrange, c'est que le texte immense qu'a tiré Dumas de cette affaire Picot est beaucoup plus vraisemblable, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique sur un plan historique et social que ne pouvait l'être le texte original de Peuchet.
Oui, enfin, Dumas parlait qu'il y avait une perle dans cette gange, c'est-à-dire qu'il est bien évident que Dumas, à travers Monte Cristo, a voulu écrire l'histoire aussi, au moins l'histoire sociale du 19e siècle, puisque tous les méchants, si j'ose dire, se représentent qui la banque, qui la justice, qui l'armée. Donc, c'est une critique extrêmement sévère. Il y a une sorte de comédie humaine à la Balzac à l'intérieur de grand roman.
Exactement, il y a donc tout un univers de Dumas, évidemment. J'ai entre les mains, parmi vos nombreuses publications, La Camorra et autres récits de brigandage, à la librairie Vuibert. C'est un inédit de Dumas que vous avez publié là, que vous avez annoté.
Et que j'ai surtout reconstitué, parce qu'il y en avait une partie en français imprimée normalement dans des journaux, une autre partie qui n'avait été publiée qu'en italien, et la troisième partie n'avait été restée manuscrite. Donc il a fallu, si vous voulez, restaurer l'œuvre en rassemblant les trois morceaux qui avaient été disjoints.
C'est merveilleux de retrouver comme ça des textes inédits de très grands auteurs. Est-ce qu'il y a d'autres manuscrits qui circulent encore d'Alexandre Dumas ?
Manuscrits, certainement un petit nombre, pas beaucoup de manuscrits romanesques, mais il y a beaucoup de documents et d'œuvres de Dumas, politiques, polémistes. Vous savez qu'il a tenu quand même un journal en Italie pendant 3 ans, il écrivant pratiquement tout le journal. Donc toute cette œuvre italienne de Dumas n'a jamais été publiée en français, si vous voulez. Il gagnait sa vie, et Dieu sait s'il dépensait, par l'écrit. Et donc il a écrit énormément et tout n'a pas été effectivement publié. Surtout qu'il a été méprisé pendant, de sa mort dans les années 1990, il a été totalement méprisé. Donc on n'a pas cherché à le publier.
On le considérait très paradoxalement comme un auteur mineur, en fait. Hein.
Très mineur, oui. Un auteur populaire, donc.
Et que tout le monde lisait, néanmoins, c'est ça. Oui.
Tout le monde, et quand on dit tout le monde, c'est le monde, effectivement, c'est l'univers, c'est-à-dire la Terre entière.
Claude Chope, nous vous disons exactement sur le même ton qu'Alain Decaux, merci.
Merci à vous.
Alors, on peut dire, Nicolas Caro, que cette œuvre, effectivement, est assez universelle, mais elle a toujours ce tropisme de la mémoire et de l'histoire. Le grand moteur d'Alexandre Dumas, c'est l'histoire.
C'est l'histoire, et d'ailleurs, Dumas a commis quelques livres d'histoire qui n'ont pas non plus franchi les siècles, qui sont beaucoup moins connus que ses romans. Mm-hmm. Mais c'était un laborieux, il faisait un vrai travail d'historien, notamment pour la fuite à Varennes qu'il décrit dans La Comtesse de Charny. Il a fait le chemin de Châlons à Varennes pour voir chaque étape de la fuite à Varennes, et il en a rapporté La Comtesse de Charny, pour s'imprégner des lieux et pour aller éventuellement rencontrer des témoins de l'époque.
On néglige un peu, on en parlait l'autre jour à l'occasion d'une émission que nous faisions sur le chevalier de Rougeville, qui donc a servi de modèle au chevalier de Maison-Rouge. On parle assez peu de ce cycle révolutionnaire de Dumas. Il y aurait tellement, tellement encore à dire. Je pense que nous ne sommes pas au bout des émissions que nous consacrerons à ce génie de l'histoire. Merci beaucoup, Nicolas. On vous retrouve très prochainement, là, cet été, dans les week-ends extraordinaires.
Peut-être. Attendre et espérer, ce sont les derniers mots de mon
Nous attendons, nous espérons. Merci
avec
beaucoup
impatience
de nous avoir transmis votre fièvre dumasienne, c'est comme ça qu'on dit ?
C'est comme ça qu'on dit, merci beaucoup.
Et, voilà. Et merci à Alexandre Dumas de faire rêver encore des générations à cette belle histoire qui est la nôtre. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous.